Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Mon invité d'aujourd'hui, je dirais que c'est un invité permanent de ce micro et de cette belle radio et de l'émission. Il nous ravit toujours avec ses romans. Il a fait une saga sur le destin, l'honneur des Laennec. Là, on va le retrouver dans une guerre qu'il connaît bien, dans un conflit que nous avons connu et nous l'avions déjà reçu pour une histoire. Aujourd'hui, ce sont les braises du souvenir qui vont nous occuper et j'ai de nouveau le plaisir, l'honneur et l'avantage de recevoir Maurice de Carvanael. Bonjour.
Oui, bonjour Claudie, vous allez bien ?
Bien, merci, et vous-même, merci de nouveau d'avoir accepté mon invitation pour les braises du souvenir, pour délivrez-vous pour ces deux ailes aux éditions de l'Archipel. Alors, là, nous allons nous retrouver en 1962 avec, il y a de très beaux personnages, comme d'habitude dans vos livres. Il y aura Philippe, Roland, Laure, on va parler de tout ça. Mais là, 1962, c'est une année bien particulière pour la guerre d'Algérie.
Ben oui, parce que c'était en fait la fin de la guerre d'Algérie, les accords d'Évian et tout ce qui en est découlé après, si vous voulez, le drame des pieds noirs, des harkis. Enfin, ça a été une période, c'est un roman bien sûr, mais que moi j'ai vécu très intensément et qui d'une certaine façon s'est inscrit dans ma chair. Hein, je ne l'ai jamais oublié.
Bien sûr. Après avoir quitté HEC, vous vous êtes engagé dans les commandos et vous avez vécu tout cela, dirais-je. Voilà.
Oui. Je suis d'abord parti, si vous voulez, c'est un petit peu compliqué. J'avais pas fait de PMS et à la sortie d'HEC, j'étais un peu choqué de voir la plupart de mes copains essayer de se trouver des stages et pour éviter d'aller en Algérie. Moi, je me suis dit que dans mon village en Bretagne, les braves enfants de cultivateurs ou d'artisans, eux, ils ne pouvaient pas échapper. Donc, je me suis dit que appartenant quand même à une certaine forme d'élite, c'était pas bien de se planquer. Donc je me suis porté volontaire et je suis parti comme seconde pompe, comme on disait en Algérie, au terme de 4 mois qui ont été très durs, parce que on a fait du maintien de l'ordre dans la banlieue d'Alger et c'était une chose difficile. Ce qui fait que j'ai beaucoup de considération, contrairement à beaucoup de Français, pour les gens qui font du maintien de l'ordre, parce que c'est une vraie épreuve. On m'a envoyé ensuite à Saumur, l'école de cavalerie, où j'ai passé 6 mois, donc je suis sorti sous-lieutenant et j'ai été renvoyé ensuite en Algérie, dans des montagnes au sud d'Alger, qui s'appelle Loircenis, dans un régiment de dragons. Alors j'ai d'abord été patron de ce qu'on appelait une harka, c'est-à-dire c'est une unité de supplétifs, d'une trentaine de supplétifs musulmans. C'était une harka dite montée, parce qu'on avait une trentaine de chevaux. Et puis, comme on dit à l'armée, j'ai eu du bilan, ça s'est bien passé, on m'a confié le commando de chasse du régiment. Et donc, je me suis retrouvé à 25 ans avec pratiquement un commandement de capitaine. J'avais 108 hommes sous mes ordres, dont 78 musulmans. Alors, le mot de commando, c'était un grand mot, en fait. C'était une unité où le régiment se débarrassait, je dirais, de toutes les têtes brûlées et qu'on faisait intervenir dès que ça chauffait un petit peu. Donc voilà.
Alors, l'un de nos héros, Philippe, les accords d'Évian, il est heureux parce qu'il se dit qu'il va pouvoir rentrer, retrouver l'or. Et puis malheureusement, ça ne va pas se passer comme ça, parce que l'histoire en a décidé un peu autrement. Moi, j'ai beaucoup aimé Philippe et puis son histoire avec Laure, cette histoire d'amour. Il y a aussi son ami Roland, dont on va parler plus tard. Mais finalement, ce plein d'espoir, ce retour à une vie normale et retrouver Laure, c'est dur pour lui. C'est vrai qu'on ressent comme un coup de poignard aussi quand on découvre que les choses ne vont pas du tout se passer comme on aurait voulu qu'elles se passent.
Oui, disons qu'alors là, ça n'est pas autobiographique, c'est un personnage,
tout à fait.
Un personnage de roman.
De fiction, oui.
Mais je me suis quand même inspiré d'histoires au pluriel que j'ai connues, je ne peux pas le dire pour ne pas dévoiler au lecteur, mais le drame qu'a vécu Laure, je l'ai vu de façon assez proche il y a quelques années. Et donc, ce sous-lieutenant est déjà très éprouvé par la fin de la guerre d'Algérie, qui l'amène à ramener une quarantaine de musulmans en France, se voit brutalement tous ses espoirs de mariage avec l'or rompu, et c'est une véritable épreuve qui vit.
Tout à fait. Alors, il y a aussi une autre épreuve, ça va être l'amitié entre Philippe et Roland, qui va être mise à mal, parce que Roland, il est plutôt pour une Algérie française aussi.
Oui, et si vous voulez, là aussi, c'est une chose que j'ai connue, je ne dirai pas son nom, mais j'ai un de mes amis qui était un garçon très, très idéaliste, qui a été révolté par le départ. Si vous voulez, je fais une petite parenthèse. Oui. Moi, je n'étais pas du tout Algérie française. J'ai toujours pensé que l'indépendance était inéluctable. Mm-hmm. C'est une des raisons pour lesquelles je m'étais porté volontaire en Algérie, en me disant qu'il fallait qu'on gagne sur le terrain pour imposer une solution juste. Et j'étais idéaliste. Je rêvais, parce que je connaissais la question, un petit peu une solution type Liban. C'est-à-dire, je m'étais dit, peut-être qu'on pourrait arriver à faire un pays indépendant où coexisteraient les Arabes, les Berbères, les Kabyles, les Mozabites, les Juifs, les Piégans, enfin tout ce que vous voulez.
Oui.
Et donc j'ai fait ça. Et malheureusement, les accords d'Évian n'ont pas été appliqués du tout. Et autant c'était, à mon avis, une décision juste et intelligente de quitter l'Algérie, autant on est dramatiquement mal parti dans des conditions qui fait que les pieds noirs ont tout perdu quand ils n'ont pas été massacrés, et que les harkis que nous n'avons pas pu ramener en France ont été dans l'ensemble massacrés.
Oui.
Je vais vous citer deux chiffres. J'ai une femme protestante, et elle me parle très souvent de la Saint-Barthélemy. La Saint-Barthélemy à Paris, ça doit être de l'ordre de 3000 tués. On estime aujourd'hui que les harkis massacrés en Algérie ont été de l'ordre de entre 70 000 et 90 000 personnes.
Mm-hmm.
Donc c'est une véritable tâche sur l'histoire de France.
Tout à fait. D'autant plus que dans le livre, donc bien sûr, les accords d'Évian ne sont pas respectés. Nous partons et on laisse les pieds noirs non plus qu'une chose, c'est se sauver ou mourir. Et là, c'est bien sûr faire les valises et se dépêcher pour sauver sa peau, en fin de compte. On le sent bien dans le livre.
Complètement. Et alors, pour en revenir au garçon Roland, beaucoup d'officiers qui s'étaient engagés vis-à-vis des harkis, quand ils ont vu que l'armée refusait de les prendre dans ses rangs et qu'on les abandonnait au couteau des égorgeurs, ils ont eu un sursaut, je dirais, de révolte.
Mm-hmm.
Et donc, l'OAS était une énorme bêtise, mais j'ai beaucoup de respect pour ces hommes d'honneur qui... pour nombre d'entre eux, ils savaient que leur combat était pratiquement désespéré, mais qu'ils ne pouvaient pas se dire « je vais rentrer en France, être au chaud, avoir une femme, un job, vivre confortablement ». C'était l'époque des Trente Glorieuses, alors que ces hommes vis-à-vis desquels je m'étais engagé vont être torturés, massacrés. D'où ce sursaut de l'OAS et d'où le caractère de Roland.
Oui, tout à fait. Mais en même temps, on ne peut pas... on ne va pas raconter le livre, mais c'est vrai que probablement ce genre de combat intérieur et intellectuel entre deux idées différentes ont dû bien évidemment souvent se produire. Au travers de l'histoire de Philippe et de Laure, moi je dirais que c'est un drame amoureux, c'est un drame sans doute commun qui a dû se passer, mais c'est quand même deux personnages que je trouve très poignants, très intéressants aussi et très attachants.
Oui, et puis je pense qu'ils ont tous les deux un certain sens de l'honneur et une grande forme d'éthique. Parce que, Philippe est un officier, c'est jeune et célibataire. Laure est un petit peu plus âgée que lui, mais c'est une femme mariée, avec enfants, etc. Et la façon dont elle gère, elle n'aimait plus son mari. Et la façon dont elle gère, si je puis dire, son infidélité est quand même empreinte d'honneur. Et quand il arrive un drame à son mari, eh bien, elle est quand même à ses côtés.
Oui, tout à fait.
Et c'est une situation, je vous dis, que j'ai connue et que j'ai beaucoup admiré la position de ta femme.
Alors, au-delà de l'histoire et de ce livre, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Est-ce que vous êtes retourné en Algérie depuis ?
Alors, je vais vous faire une confidence. J'ai jamais eu le courage de le faire. Mm-hmm. J'aime beaucoup l'Afrique du Nord, puisque oui. j'ai été comme enfant élevé jusqu'à l'âge de 10 ans au Maroc. Oui. Donc, je suis beaucoup retourné au Maroc, beaucoup en Algérie. J'ai été au Liban, qui est quand même un pays en bonne partie musulman. Oui. Mais l'idée de revoir ce pays, qui était un pays formidable, où on a laissé des hôpitaux, des routes, des écoles, aller à volo, gangréné par la corruption, etc., j'ai pas eu le courage de le faire, ou je n'en ai pas eu envie, en tout cas. Mmh. Bon, si j'avais dû le faire professionnellement, bien sûr, je l'aurais fait, mais à partir du moment où j'étais pas obligé, je n'en ai pas eu envie. Mmh.
Quel regard, au travers de l'histoire, de ce passé, qui finalement est lointain, mais finalement très proche, parce que je trouve qu'on n'en a pas fini d'en parler, on n'en a pas fini avec cette histoire. Quelque part, des blessures ne sont probablement pas pansées. Comment voyez-vous, comment regardez-vous l'Algérie aujourd'hui avec ce côté, ces jeunes qui voudraient une démocratie, qui voudraient vivre heureux et libre, et puis un pays qui est malgré tout encore gangréné, vous le disiez, par la corruption, avec un État qui est un petit peu exsangue. Quel regard avez-vous, vous qui avez connu ce pays dans d'autres circonstances?
Alors, si vous voulez, moi j'ai beaucoup aimé l'Algérie, et je dirais même l'Algérie arabe. Oui. D'abord, c'est un pays avec des ressources exceptionnelles. Hein. Je ne parle même pas économiquement du pétrole ou du gaz, mais le tourisme est incroyable. Il y a la montagne, le ski, la mer. Enfin, c'est un très très beau pays. C'est un pays très attachant. Et la population algérienne est un kaléidoscope très attachant. Si vous voulez, les Kabyles, les Berbères, les Arabes, tout ça, c'est des gens. Il y a des gens brillantissimes. Hein. Mm-hmm. D'autre part, nous avons une communauté, je dirais, culturelle avec eux, parce que on ne peut pas avoir eu 130 ans de colonisation sans qu'ils se soient tissés des liens très forts.
Bien sûr.
Alors, pour moi, l'Algérie, aujourd'hui, c'est deux choses, si vous voulez. C'est d'abord, c'est un adolescent boutonneux qui n'a pas fini de cracher sur ses parents. C'est-à-dire que le pays ne réussit, il continue. Pas plus tard qu'hier, j'avais une discussion avec un chauffeur de taxi qui était côté FLN, et je lui disais, mais arrêtez de regarder le passé, on ne conduit pas une voiture en ayant l'œil dans le rétroviseur, tournez-vous vers l'avenir, la Méditerranée, le nom des liens, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que l'on disait tous les deux, vous et moi, c'est que c'est un pays qui est soumis à une dictature à la fois de l'armée et à la fois du parti unique, du FLN, et au travers de cette dictature, eh ben, il y a la corruption des élites. Donc, c'est une petite mafia de gens qui a détourné l'argent et les forces vives du pays. Alors, la base a terriblement envie, je dirais, de bâtir un vrai pays. Est-ce qu'ils y arriveront? C'est vraiment pas sûr. C'est pas sûr d'abord parce que, ben, il y a quand même beaucoup de gens qui sont encore tiennent encore les leviers de commande. Et puis, là, je ne voudrais pas être accusé de racisme, mais je pense que ces pays méditerranéens ont beaucoup de mal à vivre sans un pouvoir fort.
Et, oui.
Et moi, je me suis aperçu, quand j'ai eu géré mon douar de 2000 habitants, bien sûr, j'ai eu une gestion, je dirais, très correcte. On n'a pas torturé, pas violé, il n'y a pas eu d'exception. J'ai essayé tant que j'ai pu de scolariser les enfants, soigner les gens, mais je me suis très vite aperçu qu'il fallait que j'aie une forme de commandement fort, parce que les gens sont des méridionaux, individualistes, et si vous regardez, on a supprimé un petit peu partout tous les tyrans qu'il y avait,
en Tunisie,
de Kadhafi à Saddam Hussein, et partout. Ça a déclenché, si vous me permettez l'expression, un bordel épouvantable.
Tout à fait. C'est vrai.
Et donc, je suis moyennement optimiste. J'ai beaucoup de respect pour ce mouvement de fond. Je prie le ciel et Allah qu'ils arrivent à établir un régime vraiment démocratique.
Oui.
Mais je pense qu'ils auront beaucoup de mal parce que ça n'est pas vraiment dans les gènes de ces pays-là.
Eh bien, écoutez, j'espère.
Je suis peut-être pessimiste.
Bah, écoutez, non, peut-être réaliste, tout simplement. Voilà. En tout cas, ce que j'espère, ce qui va être dans nos gènes, c'est la pause musicale que nous allons faire et nous nous retrouvons tout de suite après. nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Maurice de Carvenhal pour son dernier ouvrage Les braises du souvenir aux éditions de l'Archipel. Alors moi j'ai, pour revenir aussi à vos personnages, Philippe, Roland et Laure, mais surtout aussi Philippe et Roland qui sont sur, je dirais, le terrain d'action au milieu de cette guerre, de ce conflit. Comment peut-on ces accords d'Évian, c'était un espoir. Comment est-ce que, alors on sent Philippe, il est très touché par ça, parce que ça, on le disait, ça va, comment dirais-je, détruire tous ses espoirs. Mais en tant que militaire, comment est-ce que l'on ressent ces choses-là quand les politiques finalement ne tiennent pas parole face à un pays qui est exsangue et on risque sa peau aussi, et puis on va aussi laisser des gens derrière nous. Comment est-ce qu'on peut vivre ça?
Ben on le vit très très mal, hein. On le vit très très mal, et je vous dis, c'est ce qui a expliqué pour une bonne part l'OAS.
Oui.
En fait, il y a des officiers qui se sont révoltés, il y en a d'autres qui se sont résignés, mais qui sont restés des années après avec un sentiment de culpabilité, j'en ai parlé beaucoup, et puis il y en a eu quelques-uns comme moi qui ont eu la chance de pouvoir, face à ce drame, sauver, ou en tout cas proposer à tous leurs hommes d'être sauvés. Alors ils n'ont pas tous accepté de rentrer. Ceux qui n'ont pas accepté de rentrer, qui sont restés en Algérie, ont tous été massacrés, torturés.
Oui.
Mais au moins, moi personnellement, j'ai le sentiment de leur avoir donné à tous l'opportunité de sauver leur vie.
Ce
n'était pas idéal.
Oui.
Et donc, ça a été très très dur pour l'armée, et l'armée pendant des années a vécu ce traumatisme.
C'est une chose
très difficile.
Mais on sent.
Si vous voulez, moi, je comprends très bien les politiques. Hein.
Oui.
Je ne critique pas
bien
du tout de
Gaulle.
Il fallait partir.
Mm-hmm.
Le problème, c'est qu'on avait gagné complètement la guerre sur le terrain et qu'on aurait pu avoir une période de transition durant laquelle on aurait obligé le FLN à appliquer les accords d'Évian. Parce que le drame, c'est qu'on n'a absolument pas appliqué les accords tout de suite. Avant même l'indépendance, tout le monde savait que ça ne serait pas appliqué, et on n'a rien fait.
Oui.
Nous, l'armée, on nous a interdit de sortir de nos casernes, de nos forts, de ce que vous voulez, et on a assisté au délitement de la société.
Alors pour parler de Laure aussi, bon, c'est une situation un petit peu particulière qu'elle vit aussi avec Philippe, hein, on le disait tout à l'heure, elle est mariée, elle est un peu plus âgée que lui, elle a des enfants. Vous lui donnez un rôle qui en 1962, pour une femme, c'était pas forcément évident. On était quand même une société plus étriquée qu'aujourd'hui, plus renfermée sur le candidatant, sur le bien fondé de l'honneur, et une femme bien n'avait pas la liberté qu'elle pouvait avoir aujourd'hui. Elle était relativement soumise à son mari, ne pouvait pas travailler sans son mari, etc. Vous lui donnez quand même un rôle d'une femme qui ose, qui se permet.
Bien, parce que j'ai aussi rencontré en Algérie, il y avait le contexte de guerre, et ces femmes d'officiers, la guerre pour elles, c'était pas neutre. Et donc, il s'est développé des personnalités fortes dans ce contexte-là. Et des personnalités qui étaient capables d'être en rupture par rapport aux dictats, je dirais, de la société, et du milieu religieux. Si vous voulez, à l'époque, on ne divorçait pas. Moi, dans ma propre famille, j'avais des cousins, enfin des gens que je connaissais, qui ne recevaient pas les divorcés. Et donc, Laure était en rupture. Et puis, je crois aussi, si vous voulez, que la guerre donne un rôle important aux femmes, parce que les hommes sont quand même beaucoup au combat, elles sont seules. Elles sont seules pour gérer le foyer, élever les enfants, souvent même gérer la matérielle. Moi, comme enfant, pendant la guerre de 40, j'ai été élevé au Maroc. Et aujourd'hui, beaucoup de gens me disent, mais pourquoi ça vous avez très vite dans vos entreprises embauché des femmes? Parce que j'ai vu très vite que mon père n'étant pas là, papa était dans les sous-marins, il était sur l'eau ou sous l'eau, et que ma mère, pendant toute la durée de la Deuxième Guerre mondiale, a géré, et que les femmes étaient parfaitement capables de gérer et d'avoir des points de vue par rapport à la société qui étaient des points de vue beaucoup plus libres que l'étaient les femmes avant. Je pense que la guerre est un très fort ferment d'émancipation de la femme.
Oui, mais également comme en 14-18.
Comme en Angleterre, l'émancipation de la femme s'est faite basiquement à cause de la guerre, notamment parce que beaucoup de femmes de milieu simple ont été travaillées en usine. Mm-hmm. Elles travaillaient et qu'à ce moment-là, les hommes n'étaient pas là, qu'elles ont pris leur indépendance intellectuellement, clairement.
Mais en 14-18 aussi, les hommes sont partis et les femmes ont pris en charge des usines, des petites manufactures, le travail des champs. Elles ont
Et prenant leur indépendance et prenant des métiers d'hommes, elles ont pris du recul par rapport au tabou de la société. Elles se sont émancipées en fait.
Oui, de toute façon, il fallait bien prendre le destin en main et puis et les enfants, il fallait continuer aussi pour les enfants.
Et donc Laure est une femme d'officier et en plus, elle a, et je l'ai rencontré ce cas-là, un certain mépris pour son mari, parce que mépris c'est un grand mot, mais une certaine déception, parce que son mari est un très bel homme, mais c'est un homme d'état-major, il n'a jamais été sur le terrain. Alors qu'à Alger, Laure était entourée d'officiers de parachutistes, d'officiers de la Légion étrangère, d'officiers de commando, qui étaient des hommes virils, prenant des risques. Et il y avait un certain mépris d'un certain nombre de femmes, d'hommes de l'état-major, si vous voulez.
Est-ce que l'on pourrait taxer Roland un peu d'utopisme ?
De quoi de ?
D'utopisme.
Oui, tout à fait. Il appartenait à une vieille famille vendéenne, très marquée par la chouannerie, très marquée donc par une cause désespérée et s'accrochant désespérément à la royauté.
Oui.
Et donc, c'était un idéaliste et donc lui rêvait de garder l'Algérie française telle qu'elle était et donc il s'est trouvé complètement en rupture par rapport à... Il n'a pas su évoluer en même temps que la société.
Ce sont des gens qui ont pris les choses en pleine figure, c'est-à-dire on peut le sentir un peu désarçonné, un peu, dirais-je, dévitalisé, comment dirais-je, on a l'impression qu'il a perdu le sens des choses aussi un petit peu.
Il a perdu le sens des choses, d'abord parce qu'il a été confronté à une réalité horrible, ce que je racontais, et que ça pour le coup je l'ai vécu, c'est ce massacre de cet aumônier militaire et de quatre femmes de l'armée, de ce qu'on appelait des PFAT, personnel féminin de l'armée de terre. Et donc, ayant vécu ça, il a vécu aussi la répression qui s'en est suivie, c'est-à-dire que l'armée a réagi très violemment, il a assisté à des scènes de torture, il a participé lui-même, etc. Et donc, ce garçon qui était très, très religieux, très idéaliste, a basculé dans la radicalité, c'est-à-dire qu'il a été révolté de ce qu'avait fait le FLN, parce que tuer un prêtre et puis tuer des femmes qui venaient dans un douar s'occuper d'aider les femmes à évoluer, s'occuper des enfants, c'était un crime monstrueux. Donc il s'est brutalement radicalisé. Et alors quand il a vu qu'on partait, qu'on allait abandonner ses harkis, il a eu un sursaut violent de révolte.
Tout à fait, oui. Alors, je sais que ça fourmille toujours au niveau de l'écriture et des idées. Vos prochains projets, on va quitter l'Algérie. Quels sont vos prochains objectifs d'écriture?
Je vais vous le dévoiler. Je change complètement. Moi, ce que j'aime beaucoup, si vous voulez, c'est écrire quelque chose sur une époque et un moment que j'ai vécu.
Oui.
À partir de ça, je crée, j'imagine des personnages.
Bien sûr.
Mais je pense que, ça m'implique plus et ça donne un fond de vérité à ce que j'écris. Et donc là, j'écris un roman. Ce sera deux livres sur la guerre de 40 et ce sera l'histoire de quatre femmes pendant la guerre de 40. Le premier livre sera de 1939, c'est-à-dire ce qu'on appelait la drôle de guerre jusqu'à fin 1942, c'est-à-dire le moment qui a été le tournant de la guerre où on a vu que les forces de l'Axe commençaient à faiblir. Et ce sont quatre femmes de milieux très différents qui se connaîtront et dont le destin se croiseront. Parce que là, ce que je vous disais tout à l'heure, les femmes ont joué un rôle très important.
Tout à fait, oui.
D'abord parce que les hommes n'étaient pas là, ensuite parce que beaucoup d'entre elles ont milité dans la résistance. Et donc j'ai presque fini d'écrire le premier tome et j'y ai pris un énorme intérêt. ça m'a amené à lire une très grosse documentation, à me replonger dans tout ça, dans l'horreur de l'occupation allemande,
oui.
Et en même temps sur des quatre femmes qui ont toutes des très beaux caractères.
Pour le livre dont nous parlons aujourd'hui, Les Braises du Souvenir, vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez peut-être pas très optimiste quant à la situation de l'Algérie. Est-ce que vous pensez quelque part que nous sommes responsables, ou l'histoire est responsable, ou c'est l'Algérie qui n'a pas su se prendre en main?
C'est comme toujours, c'est pas manichéen. Je pense que le procès qu'on fait actuellement à la colonisation est tellement simpliste, si vous voulez. Il y a une phrase que j'aime énormément, qui est celle d'un indépendantiste algérien qui s'appelait Ferhat Abbas, qui malheureusement a été écarté au moment de l'indépendance, et qui disait « La France n'a pas colonisé l'Algérie, elle a créé l'Algérie
».
C'est-à-dire que l'Algérie, avant l'arrivée de la France, c'était une possession sous contrôle lointain de la Turquie, qui était déchirée entre différentes ethnies, avec des régions insalubres, des maladies. On a apporté là-bas l'ordre, la paix, la civilisation, les routes, les hôpitaux, etc.
Tout à fait, oui.
Et donc, aujourd'hui, ramener 130 ans de présence française à une comparaison presque douteuse avec la Shoah, ça me paraît d'une très grande bêtise et d'une très grande, je dirais, méconnaissance du problème. Alors, ceci étant dit, il y a eu des fautes graves de la France, c'est-à-dire que les Pieds-Noirs, que j'ai beaucoup aimés, parce que j'ai même de la famille Pieds-Noirs, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent n'ont pas su évoluer. L'armée, pas toujours non plus, mais c'est parfois laissé aller à la torture. Il y a eu des exactions, il y a eu des injustices. C'est ni blanc ni noir. Mais je pense que le bilan de la colonisation, on a laissé à l'Algérie, clé en main, un pays avec des hôpitaux, des routes, des
infrastructure, complètement, oui.
Et tout ça a été dramatiquement gâché, si vous voulez.
Est-ce que, malgré tout, en étant respectueux des choses et de leur pays, est-ce que on aurait un rôle à jouer, nous, en tant que Français, où il vaut mieux se montrer discret?
Moi, mon rêve, si vous voulez, qui est probablement pas très réaliste, c'est que de cette révolte intelligente auquel on assiste actuellement, qu'il émerge un jour, parce que c'est leur problème, ils n'ont pas de leader pour le moment, qu'il émerge un leader charismatique, qui comprenne que regarder dans le rétroviseur, c'est idiot, se tourne vers la France et disent, on tire un trait sur le passé, il y a eu des choses pas bien, il y a eu des choses bien, et maintenant, bâtissons ensemble. À partir du moment où il y aurait ce discours, je pense que la France serait prête à beaucoup s'investir en termes d'hommes et en termes d'argent. Moi, je serais plus jeune, on me tiendrait un discours comme ça. Je serais reparti immédiatement en Algérie pour prendre un rôle de responsable ou créer une affaire. Vous voyez.
Je comprends. En tout cas, c'était
Je pense que la balle est vraiment chez eux. Oui. C'est trop facile de dire c'est la colonisation, c'est les méchants français. Oui. Non, ils sont maintenant responsables. Ils ont 60 ans ou je ne sais plus combien de. On est parti chez ça, on est parti en 62, ça fait 60 ans.
Ça, 60 ans,
En 60 ans, ils auraient pu prendre leur destin en main.
Eh bien, en tout cas, ce roman est toujours fort intéressant de votre part, Les Braises du Souvenir, en espérant que cette Algérie ne devienne pas un souvenir, ni qu'elle construise sur des braises, mais que ce soit un grand feu de joie un jour. On en rêve. Les Braises du Souvenir aux éditions de l'Archipel, c'est avec Maurice Carvenael. Ça a été un vrai bonheur de nouveau de discuter avec vous. Et puis je vous dis à une prochaine fois pour une époque un peu plus lointaine, mais non moins terrible et intéressante en tout cas. Voilà. Merci.
Merci
de votre fidélité. Merci, au revoir.